Vous entrez dans les ateliers de la nuit. C'est une soirée verticale, entre le haut et le bas. On part de 1000 mètres pour arriver à 3842. C'est une machine qui permet de faire l'ascension. Elle a sa vie propre, des bips, des couinements, des frottements. Le moteur est en route. En pleine nature, en pleine montagne, ce sont des sons étranges. Ils apportent la fiction, le début d'une histoire, ce qui va plus loin que le naturel. La vitesse n'est pas la nôtre, le rythme s'accélère et nous quittons le monde quotidien et les voies humaines un peu plus vite que d'ordinaire. Tout peut disjoncter, tout peut s'arrêter. On ne voit parfois que du blanc, pas grand-chose, mais on entend toujours le mouvement. Les voies se rapprochent, puis s'éloignent. C'est à la fois aérien et terrestre. Nous sommes entre deux. Quand la machine avance, les sons, les modulations font presque de la musique. Il y a le passage des pylônes. Le son devient alors cosmique. Nous entrons dans l'espace. C'est un voyage collectif avec des inconnus, rapprochés dans le froid et dans la montée, solidaires. La cabine avance, puis elle passe au-dessus, continue son chemin pour disparaître jusqu'à ce que la nature reprenne le pouvoir. Il y a alors ce que l'on voit et ce que l'on perd de vue. La cabine nous arrache à la vallée, au son connu. Elle nous amène au décor minéral. Le son prend de la hauteur. L'altitude, ça s'entend. Le froid dans la voix, les mètres qui s'accumulent dans le corps. Nous irons vers le silence. Il faut creuser, se laisser avancer, guider. La remontée n'a plus rien de mécanique, elle est organique. Le rythme du téléphérique devient le nôtre. Nous sommes entre deux mondes. Suspendus par Johanna Bedeau, Nicolas Mathias et Angélique Thibault.
Suspendu.
Nicolas Mathias.
Johanna Bedeau. Angélique Thibault. Quelle couleur?
Rouge.
Il y aurait combien de places à l'intérieur?
Quarantaine. Pas plus.
Il irait à quelle vitesse?
Pas trop vite pour avoir le temps de profiter de un petit peu du voyage.
Comment elle s'appellerait la montagne? Le téléphérique, comment il s'appellerait?
Surtout pas un truc, le super machin ou...
Mais alors il s'appellerait comment?
rêvé de faire. Je suis sur des praticables métalliques exactement au niveau où le câble porteur et le câble tracteur entrent dans la gare. Donc on va avoir le bruit régulier, l'accélération, le bruit régulier et le clang de la cabine qui arrive au sommet.
Jean-Paul pour Marie, la Flégère.
J'écoute.
Donc pour te prévenir, on est au pied du pylône, on va monter là sur le P2.
Attends.
Pourquoi il s'arrête là ?
Attends.
Parce qu'on va mourir.
Non, non, non !
Bah là, parce que on réussit pas encore.
Voilà, redonne un coup. Tu lui dis de rouvrir et toi tu donnes un coup sur la sécurité. Donne un coup sur la sécurité. Voilà, il se referme. C'est bon. Ok, attends.
Là, il faut que je démarre.
Cabine une Flégère, je peux rouler ?
Ouais, c'est tout bon. Hein.
Je sais pas. Moi, ça me fait penser à un bateau. Ouais. La proue d'un navire. Je descends juste pour me ravitailler. Je descends faire mes courses et puis je remonte. Et je dors tous les soirs ici. Et je reste toute seule les intersaisons. Je préfère rester en haut. C'est comme un navire au milieu de la nature. Après, c'est sûr qu'une fois que la journée est finie, on envoie la dernière benne avec d'abord l'avant-dernière benne, c'est les clients, la dernière benne, c'est les collègues. Et puis après, on coupe le téléphérique, on coupe tout, et c'est le silence. Quoi. On se retrouve tout seul, et puis ben moi je sors mon chien. L'été, je trouvais les chamois, les marmottes, les vipères. Même après une journée de boulot éprouvante, quand on se retrouve tout seul, ça fait du bien. Toutes les nuits. C'est joli la nuit. Quand on voit la vallée, on voit toutes les lumières et tout, c'est beau. Quand il y a la pleine lune, alors là, c'est... La pleine lune, c'est fabuleux. On voit même les ombres, on y voit l'hiver quand il y a la pleine lune, avec la neige, on voit vachement bien. Et puis quand il n'y a pas de lune du tout, que le ciel est tout noir, du fait qu'il n'y a pas les lumières de la ville qui nous éclairent, on voit des millions d'étoiles. Ça c'est fabuleux aussi. Hein.
Couché dans l'herbe, juste en face de moi, la sortie de la gare. J'attendais qu'arrive la cabine. 3-4 minutes, l'ombre de la cabine passait au-dessus. Ce rectangle noir, juste avant d'entrer en gare. ralentissais, au contraire, ou j'accélérais mon décompte. Et je sais pas pourquoi, ça me détendait. J'avais peur de te rater.
Il plane vraiment. Hein.
On dirait trois super-héros de Marvel. Ouais,
tout à fait. Non, c'est ça, c'est vraiment un peu l'extrême.
J'ai 15 ans. Et je pars avec mon frère qui est âgé de 9 ans, je crois. On va vers l'inconnu pour essayer de l'inventorier. Et donc on part tôt le matin, on arrive à la station intermédiaire qui est à 1700 mètres d'altitude. Je grimpe sur le pylône pour être au-dessus des sapins et pouvoir prendre une photo de la gare. Et au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur de l'appareil photo, la cellule photoélectrique a suffi à l'expression scientifique et engager la caténaire. Et donc j'ai pris une décharge de 15 000 volts qui a fait disjoncter le téléphérique. Et puis je suis tombé dans le pylône. En tombant, je me suis cassé le bras et j'ai pris la photo, que j'ai toujours, floue. Puis je me suis recassé le bras en touchant les ancrages en pierre de taille, qui datent donc de 1909. Mon frère, heureusement, a couru et descendu au tunnel du Mont-Blanc demander du secours. Les pompiers sont arrivés sur la plateforme, on dit qu'il y avait de faibles chances que j'ai pu survivre à un choc électrique pareil. Et puis l'hélicoptère est arrivé une heure et quart après. Un médecin m'a fait une piqûre tonicardiaque et j'ai été emmené à l'hôpital.
Devant, ça fait une cassure.
Il a par exemple sur ma main, vous voyez là, ça c'est le bord de l'appareil photo. Ça n'a pas été vraiment soigné, donc la cicatrice est refaite comme elle peut.
Pourquoi c'est un bruit permanent, l'hélicoptère ?
Bon, l'hélicoptère qui patrouille, qui va chercher les gens en montagne.
Alors là, on voit quoi ici, juste en face ?
Le Mont Blanc, qui culmine cette année à 4810,4 mètres d'altitude.
C'est le sommet de... C'est le col du Midi.
Okay.
Après, vous descendez juste devant.
Et qui est à 15 km.
On voit bien le pylône à droite.
De là où on se trouve.
On arrive bien à voir. Ah,
oui. Le premier rocher noir qui est en face, où on voit le refuge des Grands Mulets à droite, qui fait une petite tache lumineuse. Mm-hmm.
Je vais vous chercher les jumeaux.
Non, mais attends, elle n'est pas encore. Ouais.
On voit la cabine là, qui rentre dans les nuages.
Ah ouais. Elle est à l'heure, ça fait, elle a brillé là.
Vous êtes montés au moins là-haut ? Ah oui.
Elle, 2 jours de suite.
Ouais, on ne m'arrache pas de là-haut, c'est...
Vous savez combien il y a de vide dessous, là ?
Dès qu'elle attaque la montée...
En fait, le plus impressionnant, c'est le décrochage là-haut, hein, quand même.
C'est le passage des pylônes.
C'est l'ascenseur, hein ?
Eh ouais.
Le passage des pylônes, c'est pas triste non plus.
Oui, mais c'est plus bas, Nono, les pylônes. C'est sur la deuxième partie.
J'étais rentré pour 2 mois.
Et d'avoir recroisement.
Puis je suis resté 33 ans.
Ah oui, d'accord, j'arrivais même pas à voir.
J'ai commencé à l'ancien téléphérique qui se trouve là. Il partait des pèlerins, la parade, glacier, arrête, colle sur le côté à droite de l'aiguille. On voit la neige blanche là, c'est le glacier rond là.
J'arrivais même pas à voir celle qui descendait.
Je l'ai fait quelques fois là, aller réparer des câbles.
Quand vous étiez là-haut, vous arriviez à voir vraiment la maison là.
Ah oui, oui, oui. Là, je connais mon coin, ça, mes garages, mon jardin qui est au bout. Là, j'ai la pointe de terrain jusqu'au fond là-bas. Je fais toujours mon jardin. Pommes de terre, tout, tout. Je ne me plains pas trop encore, ça va. Je peux plus skier, mais bon. Je skiais de l'âge de 5 ans à 83. Beau temps, mauvais temps, de nuit. Je fermais la vallée blanche avec les gars du PGHM. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère. Et alors, on avait la barquette. Quand on trouvait des jambes cassées, il fallait les récupérer le soir. Aller descendre à Chamonix à 3008 à faire du béton à la main.
J'espérais que le téléphérique soit ouvert. Et là, à 10 mètres de nous, là juste derrière, il y a la gare inférieure, la gare motrice, c'est là où sont les moteurs. Et il y avait un gars qui était son métier, c'était pilote de téléphérique. Et à l'époque, c'était mon objectif professionnel. C'était, voilà, c'était mon rêve, payer pour piloter des téléphériques, quoi. Conduire des téléphériques. On dit conducteur, je crois. Et donc, je pouvais... passer des après-midi entières, mais vraiment entières, genre 4 heures, 5 heures de suite, à être avec lui dans la salle de commande du téléphérique. Elle est toujours là, derrière les espèces de volets qui sont maintenant fermés. Elle ne sert plus, puisque c'est automatique. Et là, il y avait un gars qui avait des gros boutons et qui commandait les machineries qui se trouvaient juste derrière lui, dans la même pièce. Je pouvais passer des heures à lui poser des questions... sur comment ça fonctionnait, j'attendais chaque aller-retour pour aller voir les moteurs tourner. Il y avait à l'époque des énormes courroies qu'entraînait le réducteur et ensuite la roue motrice, enfin la poulie motrice. Alors après, j'attendais qu'une chose, c'était qu'on reparte dans ma famille à Grenoble. Et là, dans ma tête, pendant tout le voyage et tout, j'avais... comment j'allais goupiller tous les mécanos, les Legos qu'il y avait chez mes parents pour pouvoir reproduire le téléphérique que j'avais observé en vrai.
Arrêt, deuxième urgence, cabine 1. Arrêt, deuxième urgence, cabine 2.
Mais je pouvais penser pendant des heures, alors mes poulies, je vais un petit coup de Lego, je pense qu'il va pouvoir soutenir le câble, et après ça va partir derrière.
C'est pour un essai radio, là.
Comment je vais faire la cabine. Puis surtout, je voulais reproduire une thèse de un petit peu ridicule avec le recul, vraiment une reproduction assez réaliste. Donc,
ok, je te remercie.
Des moteurs à pleine puissance.
Tu veux dire que tu arrives à connaître
à entendre le régime. Tu reconnais le régime du moteur à cette distance ?
Oui, au son.
Première urgence cabine 1.
Là, c'est évident que oui, là, il speed. Là.
Ouais.
Mais... Surveillant première urgence cabine 2.
Enfin, j'arrive pas à distinguer entre le moteur du tronçon inférieur et le supérieur, ça, je sais pas te dire. C'est-à-dire que là, je sais pas si c'est le moteur du téléphérique du plan de l'aiguille ou les deux qui fonctionnent.
Oui, parce que les deux peuvent marcher en même temps.
Ouais. Ouais.
On voit le lac Blanc d'ici ou pas? On devine le plateau où il se trouve.
Mais t'as raison, on le voit pas.
Et ça, moi, je suis presque ému par ça. Tout à l'heure, j'étais dans la gare d'arrivée du premier tronçon. Quand il a ralenti, que je n'avais pas entendu depuis quelques semaines, j'ai parfaitement senti cette vibration qui m'émeut comme une basse, presque. Comme peut-être des fois certaines résonances de basse qui peuvent te prendre au trip pendant un concert. Alors que c'est pas musical du tout, hein, enfin, du moins...
C'est la variation quand il freine la benne pour le passage du pylône, où je trouve qu'il se passe quelque chose. Et donc le son, je suis sensible au son qui montre que ça bouge et que ça change. Et puis je pensais aussi à la vibration du câble quand tu passes un pylône. Tu sais, il y a un bruit. En fait, le câble tracteur est secoué.
Il fouette.
Parce que voilà, il fouette.
Il fouette presque.
Il y a une onde. Et au moment juste, ça annonce le pylône. D'ailleurs, quand on ne le voit pas et qu'on regarde la vallée, on sait qu'on va le passer. Et là, c'est une émotion qui n'est pas liée au son lui-même, mais à ce qu'il annonce. Le passage du pylône. Et ça me touche.
Départ simultané de deux cabines. Les deux accélérations de machinerie.
Le symbole d'un départ à l'horizontale du deuxième tronçon. Et la pente à l'arrivée est de 100%, c'est-à-dire qu'on monte 100 mètres en avançant de 100 mètres. Donc tu as les deux maximums, tu as l'horizontale au départ et tu arrives. C'est très raide, quoi. 100%, c'est souvent un maximum pour les téléphériques. Et ça, c'est réglé par la tension du câble. Le câble pourrait être plus tendu, tu partirais pas à l'horizontale et tu arriverais moins raide en haut. Mais il y a déjà 100 tonnes de tension avec. Ils ont tendu le moins possible le câble et ça fait quand même 100 tonnes de tension. Voilà, tu pars à l'horizontale et t'arrives à 45 degrés. C'est pas des rêves, c'est plus, ça revient à compter des moutons. Et ce qui m'apaise, et moi je suis plus au sommet de l'aiguille du midi, accroché au cap porteur, et sans cabine. C'est-à-dire que je suis accroché, j'ai une poulie, et j'ai ce moment de petite angoisse parce que je vais y aller et que je vais quand même survoler le vide. Dans une pente très raide, et le moment de bonheur que ça m'occasionne. Et donc, tout le sujet est-ce que je vais pouvoir freiner, parce que j'ai pas de quatre tracteurs pour me retenir, tu vois, je suis juste accroché au cap porteur et hop, je vais y aller.
Oui, donc en clair, t'es mort.
Voilà. Et donc, si ça va trop vite, ça déraille. Alors, je pense que c'est lié à un vieux souvenir de bande dessinée, parce que je sais pas si tu regardais les bandes dessinées de notre enfance. Il y en a eu deux quand même avec Lefranc sur les téléphériques.
C'est pas vrai.
Oui.
Attends, c'est pas le Val d'Enfer ou un truc comme ça.
Si, ça c'est la deuxième.
Alors là.
Et la première, c'est dans le Mister Borg, qui est super bien dessiné, qui est très belle, qui se termine à Venise. Et justement, le Franc prend une espèce de perche accrochée à un câble, qui est une perche de l'exploitation forestière, et descend sur le câble.
Celle-là. Là, je faisais le singe. Là, là, il y a les aiguilles du diable. Là, là, c'est la descente de la vallée blanche. Pendu par une main. Là.
Oui. Vous êtes pendu à quoi?
Rien. Tu me tiens qu'à la barrière et puis une jambe sur l'autre. L'autre, elle est dans le vide. Là, il y a la vallée de Chamonix. Là, il y a 1700 mètres de vide. Allez, la passerelle. Maintenant, elle est doublée, la passerelle. Regardez, c'est la belle. Avec le gibre, c'est magnifique. Ça, c'est la première fois, vous voyez, un gars qui a le fusil. Il gardait les bobines le soir avec une balle dans le canon. C'est pour pas que la mafia il vienne couper les câbles. C'est là-bas, en Sicile, il y a la mafia. Hein. Ça, c'est au col du Midi, dans le refuge des cosmiques. On se lasse pas de regarder un coucher de soleil ou une mer de nuages. Avec quelques sommets, on dirait des îles. On dirait si on pourrait marcher sur cette mer de nuages, c'est extraordinaire. C'est fou. Et puis les gens ici sont dans la purée de pain et nous là-haut.
Quand vous preniez, en fin d'après-midi, à la fin du travail,
oui.
Quand vous preniez la cabine en plein soleil,
oui.
En pleine lumière...
Oui.
Et qu'elle vous descendait dans la vallée qui était déjà dans le noir,
oui.
Complètement. Quel était votre sentiment?
Rien, moi j'aurais préféré remonter au soleil. Remonter en haut.
Pelle ressentit une petite secousse lorsque la benne passa le troisième pylône du téléphérique de Plan-Prat. Il entendait au loin le bruit rauque de la roue sur son axe qui annonçait déjà le quatrième pylône.
C'est un souvenir d'enfance qui m'est revenu comme ça en bloc, que j'avais complètement oublié.
La cabine montait doucement, suspendue dans les airs.
Et moi, j'ai grandi au pied du Jura, en France, à la frontière suisse. Donc j'avais en face le Mont Blanc, les Alpes, et de l'autre côté, le Jura. D'ailleurs, de la fenêtre, je voyais le tracé de la télécabine.
Brusquement ses occupants.
Donc en fait, j'ai quand même grandi avec une télécabine, pas très loin de chez moi.
Sortir avec précipitation.
Et le moniteur de ski nous a montré un jour un enfant comme ça qui passait tout seul, nous le montrant du doigt en disant « Regardez bien cet enfant, faites attention à lui, c'est un petit voleur. » Et ce garçon m'a fasciné. C'était au loin, je me souviens. Il a été d'ailleurs interdit de téléphérique. Et ce qui est fou, c'est que je pense que c'est le Simon de l'enfant de Rauve. Simon, c'est un garçon qui appartient au bas, qui est d'un milieu défavorisé, qui, à tout point de vue, a envie de s'élever. Il est toujours entre un enfant et un adolescent, entre une mère et une sœur, entre le haut et le bas, c'est un personnage entre.
C'est le lien entre...
Quand je m'ennuyais à la maison, je venais me balader par ici.
Manque de perspective du fond de la vallée et la révélation du panorama au sommet.
Au fond, l'endroit où il se sent bien, l'endroit où...
C'est le lien entre le désir de réaliser quelque chose et sa réussite.
Il dort, où il mange, où il compte son argent, où il est heureux. C'est dans cette télécabine qui, au fond, est l'endroit où il se sent peut-être le moins en danger. Cette petite cabine rouge, qui est la couleur de son bob d'ailleurs, enfin qui rappelle l'enfance.
C'est le lien entre l'enfance et l'âge adulte, c'est le lien entre... les hommes.
Quelque chose d'assez enfantin, d'assez fragile dans ce petit œuf comme ça. Et c'est drôle parce que c'est vrai que le
point de départ, c'est quand même la liane, qui est comme une espèce de nouveau cordon ombilical.
Ce cordon, oui, c'était vraiment une sorte de... Ça parle quand même de la mer. Et puis, c'est vrai qu'on appelle ça un œuf.
Cette rassurance de la liane suspendue à laquelle on est accroché.
C'est ni en haut ni en bas, c'est suspendu entre ces deux mondes, en l'air, entre.
C'est la quiétude ou l'ennui de la plaine et l'ivresse du sommet.
Comme bercé par cette télécabine au fond.
Ok, donc là je suis enfermé dans la cabine et notre cabinier va l'ouvrir et faire rentrer les passagers dans 1 minute 30 a priori.
Sonnerie de départ, c'est proche. Tout est calme d'un coup. Une appréhension peut-être également des passagers.
Tu penses ?
Bon, oui, je pense.
Et toi ?
Non.
Son trajet, pour moi, ce qui était important, c'était de partir de la tour. Il se retrouve au casier où il se change et là, il prend ce téléphérique qui l'amène dans le monde du haut. Le monde du bas, on est au pied des montagnes. Et on est au pied des montagnes, souvent la neige a fondu, on est à l'ombre de la montagne, donc il y a des endroits, des régions, en fait, on est tout le temps à l'ombre, il n'y a jamais le soleil. Mais quand la téléphérique monte, il y a toujours ce moment où d'un coup on est au-dessus de la mer de nuages et on est au soleil, quoi. Le haut, c'est une sorte de théâtralité au fond du monde parce que c'est, on se montre, on est riche, il y a la lumière, c'est le soleil, on a un costume, on joue un rôle, voilà. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une frontière entre ces deux mondes. En haut, contrairement à ce qu'on peut attendre, de voir des beaux paysages, le Mont Blanc, enfin voilà, c'est de fait difficile d'accès puisque ça coûte très très cher d'aller au ski. Le prix faramineux des abonnements de ski est toujours assez, m'étonne toujours. C'est une sorte de passeport quand même pour aller dans ce monde. C'est un monde réservé.
Donc il y en a trois, je rajoute 30. Et puis ce matin, j'ai redescendu 30 personnes.
Où il se pose.
On a dû en monter déjà 150.
Où il prend le temps et où nous,
on a beaucoup qui partent à pied.
On est aussi un peu en suspension dans le film.
À partir de 15h, ouais, j'en redescends parce qu'ils ont été se balader au lac.
La station s'est vidée, il est tout seul au monde.
Ceux qui reviennent, ils reviennent vers 15h.
Et là, il redevient un enfant d'ailleurs.
16h45.
Enfin, c'est là où il commence à jouer, qu'il commence à prendre du plaisir, mais c'est trop tard.
Ouais, des réactions, oui. Bon, y a des gens qui ont peur, hein. Ils montent dans la cabine, ils s'assoient par terre, ils font tout le trajet assis sur le plancher. Hein. Ça me fait toujours rire, parce que bon, nous, on n'a pas le vertige. Et puis j'en ai vu qui un peu paniqué, hein. On est obligé de les calmer. Hein. Parce qu'au début, ils se sont dit, ouais, allez, on y va, ils sont en groupe, allez, viens. Tu verras, ça fait pas peur, mais des fois, ils ont vraiment peur. Donc ils s'assoient par terre, et puis on arrive quand même à les faire monter au sommet, puis une fois au sommet, ça passe. Quand ils voient ça, ils sont là.
Qu'est-ce que tu disais ? Il y a le câble tracteur qui est en train de commencer à d'osciller, ça veut dire...
C'est bon signe.
Ouais.
Marquant l'approche de la cabine.
Ah là, carrément, là.
Ah, ça commence à taper.
Tu vois,
il y a ma voix.
Ouais.
Ah, elle balance beaucoup. Il n'y a personne dedans.
Et pourtant, il n'y a personne. Hein. C'est encore pire quand elle est pleine.
Ça doit être sympa.
Oui, donc c'est-à-dire que plus personne monte. Ouais. T'as raison, ça va donc fermer à 17h30. Donc avant, tu vois, techniquement, la ligne, pour des raisons d'économie, ils avaient planté les pylônes beaucoup plus bas. Et du coup, tu avais à chaque fois des ruptures de pente fortes. Alors que là, c'est vrai que Cressel a complètement redressé la ligne avec des pylônes plus hauts en en enlevant un. Et donc en faisant un téléphérique plus efficace et plus joliment arrondi.
Mais l'économie, elle est dans quoi ?
À l'époque, elle était... Alors, on peut dire qu'il n'y en avait pas puisque tu avais un pylône de plus. Mais simplement, tu avais moins de charpente métallique parce qu'ils étaient plus bas. Et puis c'était une époque où on pensait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'osait pas faire de très grands pylônes, même si on avait un de 55 mètres. On n'osait pas les multiplier. Et on pensait que les ruptures de pente forte, ça allait. D'ailleurs, ça marchait. Sauf qu'en haut, il fallait qu'ils pèlent la neige tout l'hiver et même qu'ils creusent au début une galerie dans la terre du plan de l'Aiguille, parce que la gare supérieure avait été construite trop basse et que la cabine... frotter le sol.
Frotter carrément le sol. Neige, s'il y avait beaucoup de neige.
Enfin, au départ, le sol, donc ils sont dégagés, et effectivement, après la neige. Donc tous les hivers, tu avais les ouvriers qui raclaient la neige sur 50 mètres, enfin 100 mètres de long.
Ouais, c'était toute une aventure. Même après les tempêtes, il y a bien dû avoir des personnes, des gardiens là-haut qui ont dû rester un certain temps bloqués lors de mauvais.
C'est arrivé. Le même Bernard Borgarelli, il est resté bloqué 15 jours là-haut avec une équipe quand il tendait un des caps porteurs dans les années 70, je crois. Donc effectivement la tempête ça bloquait tout, t'as eu des emmêlages de câbles à cause du vent, tu vois, comme il y avait trois câbles tracteurs imposés par sécurité par les ponts et chaussées, ce qui faisait une machinerie hyper complexe, tu multipliais tout par trois, tu vois le nombre de poulies
de renvoi,
du coup c'était une usine à gaz, c'est-à-dire que Cressel a remplacé 36 poulies, le chiffre, faudrait confirmer le chiffre, par trois, 9 ans avec un seul câble tracteur. Voilà, c'était les deux grandes innovations et simplifications du téléphérique.
On attend une cabine, là ?
Là, tu vas voir l'autre qui va remonter. Parce qu'on a eu le petit cri, hein. T'as entendu ?
Oh, on entendait les gens crier de l'extérieur,
Puis t'as pris ton appareil photo, là. Tu veux l'utiliser ou pas ?
Bah oui, je l'ai déjà utilisé pour faire des photos, ouais.
Ce qui est con, c'est que tu vas voir celle de l'autre voie. Celle qui est descendue, elle était de notre côté. Tu vas voir la cabine montante.
Elle va être plus chargée.
De l'autre côté.
Ou pas ?
Elle va être cachée par le pilote, tu veux dire
Un petit peu. Ouais. Et elle sera plus chargée, oui.
Vous avez vu, c'est marrant, je regarde depuis tout à l'heure. Le câble est arrêté, enfin, les cabines sont arrêtées. Ouais. Mais il y a des poulies qui tourne sans arrêt sur l'élan. Donc on a l'impression que le téléphérique avance, mais non, c'est la seule.
Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que c'est là où Nicolas et moi, on a fait pareil, parce que tout à l'heure, j'ai aperçu de la terrasse la même poulie qui tournait.
Ah oui,
exactement. Et celle en haut également, là où en fait, le câble
s'arrête avant, mais.
Mais là, elle tourne quand même, ça fait 5 minutes qu'elle tourne.
Ah ouais.
Donc les roulements, ils sont bien huilés,
je pense. Voilà, exactement.
Tu t'es aussi dit ça, que les roulements étaient en bon état. Donc ils assurent ici, c'est ça.
Très bien.
Encore.
Oui, celle-là, elle a l'inertie folle. Alors que celle du haut, moins. Parce que le câble se repose. Ça aussi, c'est un truc qui me fascinait quand j'étais petit, c'est de voir le sabot qui a une pente beaucoup plus forte.
Et que uniquement quand la cabine va arriver, ça va être en appui dessus. Ouais.
Et qu'on n'imagine pas qu'il y ait une telle déformation du câble avec le poids.
Enfin, il y a maintenant le temps de toutes. C'est parti.
Ouais.
Donc il y en a une qui va passer de ce côté en plus, ton appareil là.
Ouais. Logiquement, il y en a une qui va descendre.
Tu vas avoir la montante. Donc là, tu pourras plaider parce que tu as le premier plan moche.
Alors que ça fait encore aucun bruit. Ah. entend bien. C'est le pylône qui vibre un peu, ouais, il rentre en haut. On va la voir sortir de là-haut.
Puis tu vois, on entend même les passagers qui crient au passage du pylône. S'il y en a.
On l'entend. On la voit passer là-haut. Ouais. Elle est dans l'essence. C'est ça, 10 mètres secondes, ça descend là. Hein. Donc 36 km/h ouais. En théorique. Ça va vite, ouais. Allez, chargez. Ils vont crier, écoute.
Ouais, tu vas voir, écoute.
Attends.
Parce que faut dire que c'est quand même.
Bonjour.
Scientific looking sound?
Some, yeah, some recording.
Est-ce que tu te souviens la première fois que t'as regardé des téléphériques?
Forcément, c'était ici, puisque j'ai passé quasiment toutes mes vacances d'été et d'hiver là-bas pendant, je sais pas, 15 ans.
C'était au moins.
Dans la maison de mes grands-parents. Et téléphériques, on les prenait pas souvent. C'est-à-dire qu'on prenait pas le téléphérique, puis ça coûtait des sous, mais on prenait le sentier qui était sous le téléphérique. Et on montait à pied. Mais bon, moi je voyais passer les téléphériques au-dessus et je rêvais de les prendre. Depuis un des tunnels creusés dans la gare du Sommet, au loin des gens qui attendent. Une cabine les descende à Chamonix.
Et le téléphérique était probablement un des symboles forts de l'excitation des vacances qui me permettait d'y repenser.
Mais quand j'y réfléchis, je pense qu'il m'arrivait de beaucoup m'ennuyer en vacances dans le grand chalet familial et tout. Mmh. Comme toujours, hein, un petit gamin avec mes cousins et tout. Enfin, bon, c'était pas toujours la grande entente. Et pour moi, le téléphérique, c'était un moyen de partir faire un truc de mon côté, voilà, un truc en solitaire, et presque un dérivatif, un moyen de une espèce de fixette, de concentration sur quelque chose pour pas penser à d'autres. Voilà, qui peuvent être très personnels, qui peuvent être. Le problème, c'est que même aujourd'hui, 40 ans après, j'ai clairement conscience que c'est toujours un dérivatif. Par exemple, vous allez me prendre pour un taré, mais quand je... les rares fois où j'ai des soucis, et enfin, qui m'empêchent de m'endormir, les très rares fois où j'arrive pas à dormir, j'initie un rêve moi-même, où j'imagine que je suis dans une cabine de téléphérique, que je monte, et ça y est, la cabine part, et j'entends ce bruit du roulement des roues du chariot de la cabine sur le câble, et ça y est.
Des fois, le boudin un peu. Alors, les ouvertures sont plus difficiles. Des fois, elle est carrément crinche, on va dire, en colère. Alors là, c'est d'autant plus dur pour éventuellement, on ne peut pas ouvrir. Qu'elle veut pas.
Ça arrive souvent, ça?
Ça arrive, oui, bien sûr. Ben, c'est à 3 millilitres, hein, là-haut. Hein. 2008, il y a vite des conditions météo qui se dégradent. Donc faut être vigilant pour nous. On va voir si apparemment. Normalement je suis le premier à arriver. Après ça je suis derrière. poser mon jour, je prends mon temps. J'aime bien prendre mon temps pour ouvrir. Il y a une alarme. Je ne peux pas la faire violer. Voilà. Vous pouvez rentrer. C'est l'alarme des toilettes. Si je le fais pas, le premier qui arrive, bing, ça sonne. Voilà. Ça, c'est fait. Peut-être. Si on n'arrive pas à les choper, on les prend à la radio.
Numéro 1.
L'aiguille, l'aiguille. Les gardiens pour Chamonix. Tiens, ça sonne. Yes. Tiens, t'as l'ascenseur. Qu'est-ce que tu...
Non, j'ai pas l'ascenseur.
Bah, c'est marqué... Ça va, Jeanne?
Ouais.
Bien.
T'es qu'est-ce pas réveillé tu... ou quoi que tu nous appelles pas et qu'on a autre chose à faire?
Eh ben, dis donc. Il est 7h30, je t'appelle. Bon, dis-moi, Jeanne, qu'est-ce que ça dit là-haut?
Ça dit qu'il fait beau pour l'instant.
Alors attends, je
note. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de...
Attends, doucement, doucement, je note.
Il fait 0 degré,
ouais.
Une cuve de 1000 litres. T'as réussi à tout écrire?
Ouais, c'est pas mal. Ok, pas de vent, ça c'est une bonne chose. Direction, il y en a un. Neige, il n'y en a pas, ça c'est bien. Gifle sur le câble non plus.
Non plus.
Eau, tu m'as dit?
Quoi? De l'eau, 1000.
1000, bon prix. Ok, oui. Bon bah écoute, c'est parfait. Bon, nous, au plan, c'est tout bon, on va pouvoir monter. Je te rappelle au plan.
Ouais.
À toutes.
Ciao.
Voilà, il accélère doucement. Tant que ça chauffe un peu le réducteur, tout ça, on part tranquille. Ça se passe bien pour l'instant.
Le temps de profiter de un petit peu du voyage.
Le téléphérique, comment il s'appelle?
Solir de Casa de Campo.
troublance de l'aigle des neiges, du pic blanc, du plomb du Cantal, du Titlis, du pic lumière, du plan du feu, de roche brune, de chalet vers Coran, du Sancy. La Grande Motte, Alpin Express, Passo Paradiso, de Banff, de Palm Springs, du Dôme des Petites Rousses, du Montserrat, de Notre-Dame d'Afrique, du Salem,
de Johanna Bedeau et Nicolas Mathias. Avec Pierre-Louis Roy, Nicolas Mathias, Bernard Borgarelli, Nicolas Vial, Marie, François Machet, Ursula Meyer, Jean-Paul Coulon, François Hérault et Léopold. Merci à l'équipe de l'Aiguille du Midi, du Brévent et de la Flégère. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Bruno Mourlan. Production Inès De Bruyne et Alice Ramon. Coordination Irène Melianenko. Réalisation Angélique Thibault.
(17) 98 96 49 89 48 48 20 45 86 83 43 65 63 81 17 72 03 09 17 98 05 76 20 28 62 13 54 48 62 27 05 26 04 62 81 89 02 44 97 07 20 72 04 18 93 91 13 74 84 75 40 88 07 53 86 89 17 52 12 66 33 86 22 23 53 69 31 79 31 80 06 07 66 72 63 54 43 33 89 08 65 95 93 95 82 90 56 38 32 26 61 31 99 28 29 02 67 88 06 75 20 87 66 89 25 01 71 16 96 70, 32, 22, 10, 43, 21, 62, 69, 54, 86, 26, 29, 63, 13, 61, 44, 38, 14, 97, 58, 70, 12, 20, 34, 08, 05, 88, 79, 54, 45, 47, 49, 24, 61, 85, 69, 53, 64, 86, 44, 49, 24, 10, 44, 32, 07, 71, 34, 49, 47, 04, 95, 65, 84, 67, 88, 50, 98, 74, 33, 94, 42, 21, 25, 44, 87, 70, 66, 47, 80, 81, 38, 84, 60, 74, 99, 88, 71, 24, 00.
Vous pouvez réécouter, podcaster l'ascension en téléphérique, suspendue, par Johanna Bedeau, Nicolas Mathias et Angélique Thibault. Tout est sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, nous explorons notre langue, notre code, notre écriture. Balade en typographie, par Christian Rosset, questionne le rapport intime entre le typographe et les lettres. Une lettre peut devenir un personnage, on dit bien caractère. C'est aussi une web-série, 12 films courts sur le site de France Culture, Sacré Caractère.